Les par actualités.
Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités, édition du jeudi 3 mai 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, loi électorale fédérale, le grand ménage. La clinique de réadaptation de la péninsule lauréate d'un prix Ose entreprendre. Aussi, Handicap Picto Access crée une carte de France de l'accessibilité. En entrevue, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Bob, le chef, qui nous parle de « Pas de panique en cuisine » ou « Pas de panique en cuisine » qu'il co-anime avec Véronique Vizina, une émission diffusée à l'antenne d'Ami Télé. Aussi, j'aurai en entrevue Olivier Gauthier, coordonnateur des activités sportives et événements FADOC Région Île-de-Montréal, pour nous parler des 21e Jeux FADOC Île-de-Montréal qui commencent le 5 mai. Tiré du devoir, loi électorale fédérale, le grand ménage. Pressé par le directeur général des élections, DGE, par intérim, le gouvernement Trudeau a enfin accouché de sa refonte de la loi électorale. Le projet de loi présenté lundi est ambitieux, vise large et corrige les travers de la loi conservatrice adoptée en 2014. Il n'est toutefois pas sans défaut, en particulier en ce qui a trait à la protection de la vie privée. Il était temps, a dû se dire le DGE par intérim, Stéphane Perrault. Encore récemment, il craignait que le temps lui manque pour mettre en œuvre une nouvelle loi électorale à temps pour le scrutin de 2019. Un premier projet de loi nettement plus modeste, le C-33, traînait au feuilleton depuis octobre 2016, mais rien n'avait bougé depuis. Le projet de loi C-76 reprend les dispositions de C-33, mais va nettement plus loin. Les élections étant maintenant à date fixe, on veut éviter une orgie de dépenses partisanes avant l'émission des brefs. On propose des mesures pour faciliter l'accessibilité des personnes ayant une déficience et pour encourager les candidats ayant des enfants ou prenant soin d'un proche handicapé ou malade. Les frais encourus à ces fins n'affecteront pas leur plafond de dépenses électorales et 90 % de ces dépenses seront remboursées. La liste des améliorations est longue. Meilleur encadrement de la participation des tiers, allongement du vote par anticipation, pouvoirs accrus pour le commissaire aux élections. Solide dans l'ensemble, C-76 doit toutefois être adopté. Peut-il l'être à temps pour être en vigueur en octobre 2019? Nouvelle tirée du Québec HuffingtonPost.ca, qu'advient-il de nos fils et de nos filles handicapés lorsque nous mourrons? Le Régime enregistré d'épargne invalidité, REEI, du Canada est le premier outil de lutte contre la pauvreté pour les personnes handicapées dans le monde. Cet exemple remarquable de coopération fédérale, provinciale et territoriale, créé en 2008, a permis d'améliorer la vie de plus de 150 000 Canadiens handicapés. Malheureusement, le REEI n'atteint que 29 % des personnes admissibles. Et en raison des restrictions imposées par l'Agence du revenu du Canada, ARC, de nombreux Canadiens handicapés vivant en situation de pauvreté ne peuvent s'en prévaloir. Pour qu'un changement se produise, deux choses sont essentielles. L'administration du REEI, donc le Régime enregistré d'épargne invalidité et du crédit d'impôt pour personnes handicapées, ne doit plus relever de l'ARC ou de l'ARC. Et une action nationale coordonnée s'impose pour éliminer le lien entre handicap et pauvreté. Le régime enregistré d'épargne invalidité comprend trois éléments. Les contributions individuelles, familiales ou communautaires, des subventions fédérales de contrepartie et un bon pour l'épargne invalidité de 1 000 par année. Pour être admissible, un particulier doit d'abord être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est là le nœud du problème. L'ARC détermine qui a un handicap et qui n'en a pas. Le résultat, les personnes atteintes d'autisme, de diabète de type 1, de lésions cérébrales et de maladies mentales se voient trop souvent refuser le crédit d'impôt, même si elles ont droit à d'autres prestations d'invalidité à l'échelle provinciale et territoriale. Alors, j'ai le plaisir de parler maintenant avec Bob Le Chef pour Pas de panique, on cuisine à Ami Télé. Bonjour, Bob Le Chef.
Bonjour, ça va bien?
Ah oui, l'heure du dîner approche, alors ça nous fait plaisir de vous parler. Merci. Dites-nous en quelques phrases, Bob, ce qu'est l'émission Pas de panique en cuisine?
Bien, l'émission Pas de panique en cuisine, c'est une émission qui est destinée aux non-voyants, premièrement. Question des initiés un peu et de leur donner le goût de cuisiner par eux-mêmes et pour eux-mêmes.
Et puis, est-ce que vous êtes l'idéateur du concept de l'émission?
Non, pas du tout. Je dois tout le concept à votre production Zone 3 qui m'ont approché il y a quelques années pour faire ça. Parce qu'on est quand même, mine de rien, on vient de terminer le tournage de la troisième saison qui sera en onde en automne.
Mm-hmm.
Et quand on m'a proposé l'émission, Bob le personnage, Bob le chef, si on veut, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tous les types de bouffe, mais ça a tout le temps été un peu ma mission d'initier les gens à la cuisine. Puis quand on m'a parlé de la réalité des non-voyants, c'est quelque chose qui est venu me chercher. Puis quand j'ai rencontré surtout Véronique, la co-animatrice, là, je savais que je voulais absolument faire cette émission-là.
Et Véronique qui a un problème de vision, de limitation visuelle?
Oui, Véronique Vézina qui a...
Qui vit avec une limitation visuelle, devrais-je dire?
Oui, qui est une ancienne cuisinière en plus.
Ah oui?
De l'époque qu'elle avait sa pleine vision. Et donc, moi, je propose des recettes vraiment bonbons pas chères, qui sont faciles à réaliser. Et elle m'apprend des techniques. Elle apprend aussi aux gens à la maison qui écoutent l'émission. Des techniques de cuisiner sans ses yeux.
Oui, et vous, vous avez fait l'expérience là, de cuisiner sans vos yeux. Vous vous êtes bandé les yeux à plusieurs reprises.
À chaque émission, Véronique, elle aime bien me faire un défi à l'aveugle, comme on appelle, et pas se moquer de moi, mais me faire vivre un peu sa réalité.
Mm-hmm.
Et c'est pas toujours évident. Pour vrai, là, il y a certains... surtout quand on est cuisinier professionnel... on va se dire souvent, ben moi, je serais capable de couper des carottes les yeux fermés. C'est pas nécessairement vrai.
Une façon garantie. De parler.
Oui.
Oui. Alors, quels sont justement les défis à l'aveugle qui vous ont donné le plus de difficultés? Couper les légumes, mesurer, verser les ingrédients?
Ben, couper les légumes, mesurer, ça, c'est pas si pire parce que couper les légumes, c'est vraiment une technique avec ses mains. Donc, une fois qu'on a la technique, effectivement, c'est un peu plus facile. Par contre, les affaires peuvent paraître très simples. Remplir des moules à muffins.
Ouais.
Retourner une crêpe dans une poêlonne. J'ai manqué le poêlon par à peu près un pied. et bien sûr, il y a la fameuse émission où Véronique m'a fait faire une bûche de Noël. Toute l'équipe sur le plateau m'en parle encore.
Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ma bûche... Donc, ce n'est pas une bûche digne d'une grande pâtisserie.
Ah non! Et est-ce que vous vous êtes amélioré avec le temps lorsque vous, justement, vous cuisinez les yeux bandés?
Bien, oui et non, hein, parce que les défis, ils changent vraiment du tout au tout à chaque émission. Donc, le mot défi, là, c'est vraiment à retenir dans cette partie de l'émission.
J'imagine que les autres sens sont... encore plus solliciter l'odorat, le toucher, le goûter, l'ouïe, lorsque vous cuisinez sans pouvoir voir.
Sans trop vendre de punch, dans la saison 3,
ouais.
On m'envoie, on sort un peu de la cuisine et un de mes défis est de faire ma propre épicerie. Donc, on est allé dans une épicerie, on m'a bandé les yeux, j'avais la cam blanche pour m'aider à me diriger. Et au début c'est fou parce que je me sentais j'ai complètement perdu le nord là, mais un moment donné quand on se concentre et les autres sens embarquent là,
ah oui.
Louis Louis, le toucher, l'odorat pour la sélection des fruits. J'avais jamais choisi des fruits en les sentant. Mm-hmm. Puis c'est étonnant, je veux dire, on prend une pomme, on la sent de proche. Véronique Vézina, la co-animatrice, elle est capable de différencier les sortes de pommes à l'odeur. Puis ça, c'est... Ça, moi, je trouve ça vraiment impressionnant.
Oui, oui, son odorat s'est vraiment développé.
Oui.
Un nez fin, comme on dit.
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris de plus essentiel dans le cadre de cette expérience d'animation d'émission?
Ben écoute, c'est vraiment d'apprendre la réalité des non-voyants au Québec, puis partout ailleurs, finalement. Et d'où... Ben, mauvaise expression à dire, mais m'ouvrir les yeux un peu
oui.
Sur la réalité, pour vrai, là, qui vivent quotidiennement.
Est-ce que vous aviez des commentaires des non-voyants, des aveugles qui écoutent l'émission?
Absolument. Ils adorent le concept, ils adorent l'émission. Ils ont vraiment l'impression que l'émission, elle est pour eux. Mais, tu sais, il y a une joie là que... finalement, on pense un peu là, à la communauté des non-voyants.
Alors, on peut voir l'émission donc sur amitélé.ca, puis on va attendre avec impatience la troisième saison, donc pour l'automne.
Oui, on a très hâte de vous présenter ça.
Et en passant, le RAM donne des cours de cuisine collective sur la rue Berry à Montréal. Puis, j'ai une petite question indiscrète à vous poser avant de vous laisser, puisque l'heure du lunch approche. Votre...
Tant que c'est pas mon âge, ça va me faire plaisir de répondre.
Oui, vous êtes tellement vieux. Alors, votre mets préféré?
Oh boy! Ça, là, ça m'est un qui est vraiment dur à mettre le doigt dessus. Je suis un vrai épicurien. Moi, je mange de tout. Hein, vraiment.
Il n'y a rien que vous n'aimez pas?
Non, il y a vraiment rien que j'aime pas, pour vrai. Il y a des trucs que j'aime un peu moins. Je suis pas un fanatique du yogourt et je n'ai jamais mangé une banane, pour vrai. Ça c'est vrai.
Pourquoi?
On va en manger une en direct sur Internet à un moment donné.
J'espère. C'est tellement bon. Vous manquez quelque chose.
S'il y avait un plat que je voudrais manger pour le reste de ma vie, ce serait la lasagne à ma mère. C'est vraiment la meilleure.
Bon, on veut la recette.
Elle est déjà sur mon site web, boblechef.com.
On ira faire un tour. Bob le Chef pour Pas de panique, on cuisine à Amitélé. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis, bonne continuation parce que vous êtes parti aussi pour d'autres émissions. Là, j'ai entendu entre les branches que vous allez participer à une émission animée par Isabelle Racicot. Alors, ça ne lâche pas, on vous aime beaucoup.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Bonne journée. La
clinique de réadaptation de la péninsule est la seule entreprise de la Haute-Gaspésie à avoir décroché un prix lors du gala Ose entreprendre qui se déroulait à Rivière-aux-Renards jeudi dernier. La clinique de réadaptation de la péninsule remporte ainsi la palme dans la catégorie Services aux individus du volet de création d'entreprise. La clinique qui a pignon sur rue à Sainte-Anne-des-Monts a vu le jour en septembre 2017. Il s'agissait de la réalisation d'un rêve de longue date de l'orthophoniste Elise Fitzgerald. Ayant œuvré au Centre de réadaptation de la Gaspésie pendant de nombreuses années, la professionnelle voulait se donner un nouveau défi, tout en ayant une plus grande autonomie sur le plan de l'horaire, abattre les contraintes de temps pour les suivis avec les patients et diversifier l'offre des services offerts. Ce prix régional permet à la clinique de réadaptation de la péninsule de se tailler une place pour la finale provinciale qui se tiendra le 13 juin prochain au Palais Montcalm de Québec. Ce gala sera animé par Charles Lafortune et couronnera les meilleurs projets entrepreneuriaux du Québec. Je joins maintenant Olivier Gauthier, coordonnateur des activités sportives et événements FADOC Région Île de Montréal. Bonjour, M. Gauthier.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci, vous?
Oui, merci. Merci de me
Alors,
recevoir.
Ça nous fait plaisir. Merci d'être là. La date fatidique s'en vient, 5 mai, pour l'ouverture des 21e Jeux FADOC Île de Montréal. Est-ce que vous êtes prêt?
Oui, les préparatifs vont montrer. On est dans le dernier doigt.
Tant mieux.
C'est déroulé à merveille.
Alors, M. Gauthier, en quoi consistent les Jeux de la FADOC sur l'Île de Montréal?
En fait, les Jeux de la FADOC, c'est bien simple. C'est l'événement sportif là, qui est entièrement dédié aux 50 ans et plus. On propose 11 disciplines sportives.
Quelles sont ces disciplines?
Que ce soit la marche, le badminton, le tennis de table, la natation. Ensuite, on a la course, on a le volleyball, on a aussi la pétanque, les petites quilles. Mm-hmm. Et un nouveau sport en croissance qui est le pickleball.
Pickleball, c'est quoi ça?
C'est un mélange de racquetball, de tennis de table et de badminton-tennis.
Ah, trois sports fusionnés.
Exact.
Et où vont se dérouler ces Jeux?
Les Jeux se déroulent sur l'île de Montréal, dans différents plateaux sportifs. On est concentré principalement là, vraiment au complexe sportif Claude Robillard. Mm-hmm. On a également certaines disciplines qui sont à l'extérieur, comme le parc Jean-Drapeau pour la course, comme le parc P12 pour la pétanque, et le parc Jarry pour la marche ainsi que le tennis.
Est-ce que vous attendez plusieurs participants?
Oui, cette année, c'est un nombre record depuis qu'on a mis les Jeux FADOC dans un événement un peu plus sportif. Donc, cette année, on attend 526 participants.
Ah oui, est-ce qu'il y a encore de la place?
Édition. Il reste encore quelques places, par contre, il faut se dépêcher là, avant demain 16h.
D'accord, alors on a jusqu'à demain 16h pour s'inscrire en allant,
exact.
J'imagine, sur votre site web?
Soit sur notre site web, www.fadoc.ca/jeux-montréal, ou sinon à nous téléphoner.
Parfait. Au 514-271-1411?
Oui, c'est bien ça.
Bon, merci. Et est-ce qu'il faut être en excellente forme pour participer au jeu? Bien là, vous avez parlé de pétanque. J'imagine que pour ça, il faut être plus ou moins en forme. En tout cas, je ne sais pas, là. Peut-être j'ai des préjugés.
Non, mais en fait, c'est pas nécessairement pour toutes les disciplines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on offre une catégorie compétitive et une catégorie participative.
Ah oui.
Donc, dans la catégorie participative, là, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui veulent seulement pratiquer le sport et avoir du plaisir, tandis qu'au niveau compétitif, là, c'est un certain meilleur athlète, là, donc il y a certaines personnes qui sont un peu plus compétitifs et qui veulent remporter des médailles. Mais sinon, oui. C'est accessible à tout le monde.
Est-ce qu'il y a un encadrement médical spécial pour tout le monde?
Oui, il y a un encadrement médical spécial pour tout le monde. À chaque discipline, on a une équipe médicale qui est sur place avec des défibrillateurs et tout le nécessaire là, pour les premiers soins.
Qu'on soit donc du côté compétitif ou participatif?
Oui, c'est ça.
Est-ce que la FADOC propose des activités sportives à longueur d'année?
On propose différentes activités sportives à longueur d'année, qui va du golf jusqu'à un club de marche là, qui se rencontre une fois par semaine durant toute l'année. Donc, on a vraiment une panoplie d'activités. Malheureusement, je ne pourrais pas tous les énumérer parce qu'on en a beaucoup trop.
Il y en a beaucoup, oui.
Allez voir sur notre site Internet, là, on offre quand même une belle programmation d'activités sportives.
Alors, les 50 ans et plus n'ont pas de raison de ne pas être en forme. Si,
exact.
Et puis, donc, vous pouvez nous rappeler votre site Internet si on veut avoir plus d'informations, si on veut s'inscrire aussi au jeu. On a jusqu'à demain 16h, je le rappelle.
Oui, c'est le www.fadoc.ca/jeux-montréal.
Jeux au pluriel.
Oui.
Et votre numéro de téléphone?
C'est le 514-271-1411 et c'est le poste 222 pour les inscriptions.
Très bien. Olivier Gauthier, un grand merci pour cette entrevue puis je vous souhaite de bons Jeux FADOC Île de Montréal du 5 au 18 mai.
Merci beaucoup. Okay. Une bonne fin de journée.
Merci vous aussi. Handicap Picto Access crée une carte de France de l'accessibilité. La jeune entreprise installée à Lille a déjà répertorié 153 000 lieux accessibles aux personnes handicapées en France. Cela ressemble un peu à une application de conseil aux voyageurs. Une carte constellée de points permet d'identifier des lieux publics autour de soi. Certains désignent des commerces, d'autres des stations de métro ou de bus, d'autres encore des agences bancaires. Il suffit de cliquer sur ces points pour avoir des informations sur l'accessibilité de ces établissements ou transports. L'initiative, baptisée Picto Access, est née en octobre 2015 sous la houlette de Justin Marquand et de l'un de ses amis éducateurs spécialisés. À l'origine, nous voulions faire un guide touristique destiné aux personnes handicapées, mais en travaillant sur cette idée, nous avons finalement décidé de lancer un site accessible à tous. Je me suis rendu compte qu'il existait en France beaucoup de lois sur l'accessibilité des lieux ouverts au public, mais qu'elles n'étaient ni connues ni appliquées, explique le jeune homme aujourd'hui âgé de 31 ans. Au total, 153 000 lieux ont été répertoriés en France, en particulier dans les Hauts-de-France, où l'entreprise qui compte 12 salariés est installée. Picto Access a ainsi développé des partenariats avec la ville de Lille, celle de Dunkerque ou encore l'assureur Maif. Dans teleops.nouvelleops.com, ne ratez pas Patient, mais que fait le défenseur des droits? Dans le film de Grand Corps Malade et de Mehdi Edir, on entend des devinettes comme « Tu sais c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant? C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul. » Sauf qu'ici, on n'est pas chez Cyril Hanouna. La blague est prononcée par un jeune type en fauteuil pour faire rigoler un autre jeune type en fauteuil et ça change pas mal de choses. De manière générale, Patient est un film qui change pas mal de choses dans la façon dont on perçoit les tétraplégiques, les paraplégiques et tous les accidentés de la vie qui se retrouvent dans un centre pour réapprendre à peut-être un jour pisser de nouveau tout seul. Ce n'est pas la moindre de ses qualités. Sur le papier pourtant, Patient avait tout pour qu'on le ramasse à la petite cuillère. Pensez, un premier long métrage co-réalisé par un sympathique slammer à succès, qui s'est inspiré de son propre calvaire pour raconter celui d'un garçon de 19 ans. Benjamin, qui ne pensait qu'au basket, se réveille paralysé après un plongeon stupide dans une piscine manquant d'eau. « Il est à qui ce tétra ?» gueule un médecin dans un couloir. Le voilà pour un an dans un centre spécialisé avec d'autres jeunes gens de son âge, où il va progressivement bouger un orteil, puis une main, puis tenir assis, puis tenter de passer le sel à son voisin. Ça pourrait être larmoyant, sordide, encombré de diagnostics médicaux à vocation pédagogique comme on en trouve dans tous les mauvais films d'hôpitaux, bourré d'aphorismes pénibles sur le sens de l'existence et l'importance de la fraternité humaine. C'est le contraire. Florette rentre à l'école, le livre qui va changer votre regard sur la différence, c'est issu du site babyfrance.com. Flore est une petite héroïne des temps modernes qui vit la plus difficile des aventures. Vivre dans un monde ordinaire quand on est différent et qu'on a un petit quelque chose d'extraordinaire, un chromosome. Son but, ouvrir les yeux des lecteurs sur un sujet encore trop tabou. Premier tome de ce qui sera en fait une collection, Florette rentre à l'école est le nouveau livre dont Baby France se doit de vous parler. Il nous raconte l'histoire de Flore, Florette coquinette, comme on l'appelle à la maison, qui est atteinte d'un syndrome de trisomie 21, mais qui croque la vie à pleines dents, quand même. Une petite héroïne haute en couleurs, pleine de joie et d'amour, dont le propre quotidien se transforme parfois en véritable aventure, à cause de sa différence. Flore est une fille pas comme les autres. Elle a une différence qui s'appelle la trisomie 21. Alors, elle est parfois lente pour parler ou pour faire les choses, mais elle comprend tout. La collection Florette Coquinette, c'est une série de livres qui entreprend la plus jolie des missions. Faire comprendre à chacun ce qu'est réellement la vie d'un enfant différent, d'un enfant atteint de trisomie 21. Avec des mots et une approche qui pourrait faire changer les opinions et les actes, ces livres sont une vraie arme face à l'ignorance. À l'origine de cette initiative, Flore, mais aussi sa maman, Alexia Kersi, éducatrice Montessori depuis plusieurs années, elle nous décrit avec amour ce qui se cache derrière le livre. Elle a une telle personnalité qu'elle a fini par m'inspirer. Ce livre est devenu une évidence. Je devais l'écrire, ma fille m'a lancé ce défi et la vie aussi. Il fallait expliquer aux enfants comment un enfant différent vit et pourquoi il n'évolue pas au même rythme que les autres. Elle est l'âme de ces histoires, elle m'a soufflé les mots et le ton de ces récits. Dans quotidiendutourisme.com, après avoir scellé un premier partenariat avec Handicap International et acquis la plateforme Accommable, Airbnb lance aujourd'hui 19 nouveaux critères pour faciliter la réservation de logements pour personnes en situation de handicap. Open data, réalité virtuelle, information, les défis pour permettre aux personnes handicapées de partir en vacances dans des logements adaptés sont encore nombreux. 12 millions, c'est le nombre de personnes en situation de handicap en France. Aujourd'hui, seul un tiers de ces personnes partent en vacances, soit trois fois moins que le reste de la population, déclare Emma Delfaux, sous-directrice du tourisme au ministère de l'Économie. Pour faire de Airbnb une plateforme pour tous, comme le précisait son fondateur lors de la keynote annuelle, la jeune pousse a souhaité s'enrichir de plusieurs 19 nouveaux critères, dont accès de plain pied, entrée large, baignoire avec siège de bain ou bien encore la possibilité de choisir un stationnement adapté aux handicapés. Notre objectif aujourd'hui est de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir partir en vacances dans des logements appropriés, mais également d'encourager les personnes à devenir hôtes, explique Félix Vaux, responsable de partenariat Paris RNB. Malgré le fort potentiel et la demande de ce marché, la France reste en effet très en retard en matière d'accessibilité par rapport à ses voisins européens ou à des pays comme les États-Unis. Une rafale pour terminer, appel à candidature, conseil d'administration de Pardi, défendre la cause de la déficience intellectuelle avec Pardi. Vous êtes parent ou proche d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle et êtes résident de Montréal? Le CA de Pardi lance un appel à candidature pour des postes d'administrateur, d'administratrice pour un mandat de 2 ans débutant après l'Assemblée générale annuelle du 29 mai prochain. Si vous êtes intéressé à poser votre candidature, veuillez communiquer avec Isabelle Moliette, coordonnatrice, au 514-376-6644, 514-376-6644 ou imoliette@pardi.quebec avant le 15 mai. Les élections auront lieu lors de notre Assemblée générale le mardi 29 mai de 18h30 à 21h. Merci à mes invités Bob Le Chef et aussi Olivier Gauthier. Merci à mon équipe aujourd'hui à la technique Mathieu Tessier, à la recherche Anne-Laure Janson. Ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute. Bon week-end, on se retrouve lundi. Au revoir.